Il y a plus de 2 mois, nous avons parlé à Nicolas Roux à l'émission ici. Nicolas était parti en compagnie d'amis et collègues. Il était parti en expédition dans le Grand Nord, en fait en territoire nordique chez nous. Et on lui avait parlé alors qu'il était là-bas depuis environ une semaine ou deux. Ils sont revenus de cette longue expédition, l'expédition Accor. Et on va voir auprès de Nicolas comment ça s'est passé. Bonjour Nicolas Roux.
Bonjour Marie-Hélène.
Ça va bien? En forme?
Ça va en forme, en pleine forme.
Vous êtes rentré il y a donc une semaine?
On est, ouais, c'est ça, on a rejoint le village Inuit de Nain là, le 11, après 14 heures de canot. Donc ça fait seulement 3 jours qu'on est de retour à Québec.
OK, et vous avez été parti en tout quoi, 3 mois?
65 jours, on a fait ça plus vite que prévu.
OK, c'est là donc, et on dit que c'est la deuxième plus grosse expédition à avoir été faite cette année au Canada.
Oui, selon la Société géographique royale du Canada, là, on est classé comme une expédition majeure. Ouais.
Bon, donc, c'était, vous êtes parti avec quoi, 2 canots?
On est parti 3 canots pour les premiers 2/3 de l'expédition. Ensuite, on est tombé à seulement 2 canots, puisque 2 coéquipiers sont partis là, de l'expédition pour des raisons professionnelles, là, ce qui était prévu depuis le début, là, soit 100%.
Bon, il y avait... Racontez-nous, parce qu'il y a peut-être des gens qui se rappellent pas, Nicolas, comment vous vous êtes rassemblés? Qui est parti avec toi?
Oui, en fait, on est 6 très bons amis. Là. Ça fait des années qu'on va comme campeur et comme moniteur, là, comme guide dans les camps de vacances, comme le camp de vacances Keno puis le camp Minogami. Donc, on a pris le canot dans ces camps de vacances-là. On est devenu guide par la suite. Et là, c'est la soif de l'aventure, la soif des expéditions de canot qui nous a ensorcelés depuis plusieurs années. Puis maintenant, en fait, ça fait 3 ans qu'on travaille sur le projet Accor, là, puis on s'est laissé envoûter par la folie du projet, par l'immensité de cette expédition-là, de ce parcours-là qui est super ambitieux. On l'a mené à terme, en fait, c'est ça. On est six amis, tout simplement, là, qui aimons partir à l'aventure ensemble.
On parle d'une grande réussite. Personne n'a été blessé?
Personne n'a été blessé. Très grande réussite dans les temps. On a fait ça plus vite que prévu. En fait, c'est qu'on n'a pas pris les semaines qu'on avait prévues comme au cas où, là, si la température était pas belle, etc., si on avait beaucoup de vent sur la côte. Donc, il a tellement fait beau, on a tellement mis beaucoup d'efforts pour avancer le plus vite possible, pour profiter de la belle météo, qu'on est arrivé très, très, très vite.
Bon, ça a l'air facile à t'écouter parler, mais quand même, ça a été un parcours à quelques occasions, soit insécurisant ou encore difficile. Parle-nous des moments que vous avez vécu plus difficilement durant l'expédition, Nicolas.
Ouais. En fait, d'un point de vue physique, c'était extrêmement difficile. Ça impliquait la descente de la rivière Georges en crue. Pour les connaisseurs, la rivière Georges est montée à 2600 mètres cubes par seconde. Là. Donc, c'est vraiment une rivière en crue. C'est une des plus grosses rivières au Québec. Là. Donc, on parle de 1 km de large à certains endroits. Avec des falaises de glace d'environ 8 mètres de haut là, des deux côtés, là, des canyons de glace. C'est assez particulier comme descente des rivières sportives. Là. Donc, ça, on avait, quand on s'est parlé, il y a 2 mois, on venait de terminer cette section-là. Mais finalement, c'était seulement le premier tiers de l'expédition parce qu'ensuite, on partait pour remonter la rivière Corok, qui coule dans le nord du Québec, au Nunavik. Donc, on a remonté cette rivière-là sur 130 km. Donc, remonter une rivière, ça implique quoi? Ben, ça implique de remonter le courant en pagayant quand on peut. Sinon, les plus gros rapides ont les portages. Donc là, on se ramassait à faire des portages de 2, 3, 4 kilomètres dans la brousse, dans la forêt boréale, dans les forêts d'épinettes qui sont jamais marchées au final. Et ces portages-là n'existent pas. Là. Il fallait les créer à la boussole et au GPS. Tirer les canots en équipe, faire de la cordelle, passer les canots dans les rapides avec des cordes. Donc ça, c'est extrêmement physique. Wow. Et ça a été très difficile. Après ça, un portage de 8 km pour atteindre un petit bassin versant, une petite rivière qui nous a permis d'atteindre l'océan Atlantique. Puis finalement, on a pagayé 3 semaines sur les côtes de l'Atlantique là, dans la mer du Labrador. Ça a été vraiment éreintant d'un point de vue physique et mental. Là.
Nicolas, vous deviez avoir l'impression parfois, parce que c'était le cas, de déchiffrer du territoire, d'être comme un peu des explorateurs.
Ben, il faut faire attention quand on utilise les mots aventurier, explorateur, parce que de nos jours, on a l'impression que c'est des mots qui sont utilisés un peu à toutes les sauces, mais en toute humilité, le parcours qu'on a fait mêlait beaucoup de défis extrêmement différents. Ça prenait une capacité d'adaptation à tout casser, genre des nerfs d'acier. On a été pendant 600 km dans un territoire avec des ours polaires, là, une fois ou 2 jours, très, très, très hostile, des côtes escarpées avec beaucoup de houle dans l'océan, Donc oui, effectivement, c'est assez particulier comme expédition là.
Et d'ailleurs, tu parles des ours, Nicolas. Quand on s'était parlé il y a deux mois, j'avais évoqué le mot ours polaire et tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de danger, que vous n'étiez pas trop inquiet et vous avez protégé votre famille tout le temps. Vous étiez en expédition sur Facebook. Il n'y avait pas trop de photos des mesures qui étaient prises, mais vous avez un peu eu peur de la présence des ours polaires quand même.
En fait, depuis le début de nos recherches sur cette région-là, les monts Torn Gap et la côte du Labrador, ben, on le savait que c'est une région au Canada là, où il y a le plus d'ours polaires et la population d'ours polaires augmente, est en augmentation. Donc ça, on était parfaitement au courant, puis on s'est armé comme il fallait, on s'est préparé comme il fallait. Mais évidemment, là, sur le terrain, quand on a croisé les ours polaires pour les premières fois, ben, on pensait à nos mamans.
Oui.
Et on se disait qu'on voulait pas trop les inquiéter, hein. On voulait leur épargner une syncope. Donc, on a pris la décision en équipe, là, de ne pas dire qu'on voyait les ours polaires. C'est pour ça que dans quelques articles, là, sur Internet, il fait mention de ça. Mais en réalité, on a vu 10 ours polaires sur la côte en 23 jours. Ça a été assez surprenant. On en a croisé sur nos sites de camping, là, à 15 mètres de la tente, en plein milieu de la nuit. On en a croisé dans nos portages sur la côte, des face-à-face avec des énormes ours polaires.
Impressionnant. Même, je lisais dans des documents que vous faisiez le guet la nuit. Les gens se relayaient là, pour surveiller les campements pour pas que les ours vous attaquent. Quand même.
Effectivement, parce qu'on a beau être armé du mieux qu'on peut, avec du poivre de Cayenne, des bear banniers et une arme à feu, ben il faut faire des tours de garde parce que les ours polaires, c'est pas des ours noirs là.
Bon.
Ils sont très subtils, là. Ils peuvent s'approcher très 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 proche de la tente.
Ils sont protecteurs.
C'est très important là de ouais.
Nicolas, il nous reste à peine quelques secondes, mais je veux que vous nous parliez de cette découverte de ruines, des maisons, des tombeaux, des os humains. Vous êtes revenu avec des artefacts là-bas.
Ben effectivement, en fait, on a gardé l'œil ouvert pour la deuxième partie de l'expédition qui impliquait la descente de la rivière Palmer, qui est cette rivière qui nous permettait d'atteindre l'océan. Donc cette rivière-là, comme on était à notre connaissance, on était les premiers pagayeurs contemporains là, à faire la descente de cette rivière-là. On en a profité pour faire deux choses. De un, la cartographier pour la rendre plus accessible aux prochains pagayeurs, mais aussi pour garder l'œil ouvert pour des sites d'occupation potentielle Inuit, puis Thule aussi, Dorset, qui sont les ancêtres des cultures Inuit. On a trouvé des ruines sur la rivière Palmer, sur la côte. À chaque fois sur la côte qu'on trouvait un site de camping qui avait du bon sens, on trouvait des ruines, donc des vieux cercles de tentes très, très, très bien définis. On a trouvé des centaines de sites comme ça, de maisons semi-souterraines. On a trouvé des morceaux d'éclisses, de pointes de flèches en quartzite. On a trouvé des tombes. Donc, c'est vraiment des découvertes importantes. Là. Bon. On a tant de réponses là, de la part de l'Institut culturel Avatak.
Super intéressant, Nicolas. On va vous suivre. Des conférences sont prévues en novembre et en décembre prochain. Très intéressant, Nicolas, t'entendre parler. Les détails sont sur le site expéditionaccor.com. Merci, puis un gros bravo à toute la gang, Nicolas.
Ben, merci beaucoup. Ça fait du bien de revenir.
Merci beaucoup. Au revoir.